France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Sébastien Lecornu se résout à utiliser le 49.3 pour faire passer son budget. Le Premier ministre contraint de se dédire. Il compte désormais sur la non-censure du Parti Socialiste, le PS particulièrement bien traité par le gouvernement. L'État porte plainte contre Greybull, le repreneur de l'aciériste Novasco, qui va fermer 4 de ses 5 usines. Greybull accusé de n'avoir rien fait pour sauver l'entreprise, malgré les 85 millions d'aides publiques. 3 jours de deuil en Espagne après la catastrophe ferroviaire en Andalousie qui a fait au moins 39 morts. Une collision entre 2 trains à grande vitesse particulièrement étrange selon les autorités espagnoles. 3e journée de fermeture totale au Louvre en raison de la grève dans le plus grand musée du monde. La présidente du Louvre, Laurence Descartes, semble avoir perdu le soutien de la ministre de la Culture, Rachida Dati. Sébastien Lecornu a mis fin tout à l'heure au vrai faux suspense sur le budget 2026. Le Premier ministre va recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le projet de loi de finances, car le gouvernement n'a pas réussi à bâtir une majorité favorable à ses propositions budgétaires. En revanche, il a multiplié les concessions aux socialistes pour qu'ils ne votent pas la motion de censure que s'apprête à déposer la France insoumise. Stéphane Robert, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
En arrivant à Matignon en septembre, Sébastien Lecornu s'était engagé à ne pas utiliser le 49.3 sur les textes budgétaires. La réalité du blocage parlementaire l'a rattrapé, Stéphane.
Oui, c'était début octobre, juste avant de démarrer l'examen du budget. Sébastien Lecornu s'était engagé à la demande du Parti Socialiste à ne pas utiliser effectivement le 49.3. Ceci afin d'initier un dialogue sincère avec les députés susceptibles de permettre la construction d'un compromis. 3 mois et demi plus tard, il fait un constat d'échec et ressort cet outil constitutionnel qui permet d'engager la responsabilité du gouvernement sur un projet de loi.
C'est pas parce qu'on engage la responsabilité du gouvernement qu'on abandonne l'idée du compromis, du travail sur le fond. Comme c'est une copie de compromis, ça devient la copie de personne, donc plus personne n'est là pour la défendre, mais c'est pour cela aussi qu'on se retrouve à devoir engager notre responsabilité pour donner à la France un budget et essayer d'expliquer ce qu'il y a dans cette copie.
Entre les deux outils à sa disposition, Sébastien Lecornu a choisi le plus facile à mettre en œuvre et le moins brutal aux yeux du Parlement. Le plus facile, car l'article 49 alinéa 3 de la Constitution permet au gouvernement d'ajouter les amendements qu'il souhaite au projet de loi de finances. Il peut par conséquent intégrer au budget les concessions faites aux uns et aux autres, en particulier aux socialistes, pour éviter la censure. Ce n'était a priori pas possible avec les ordonnances. Et puis le moins brutal pour le Parlement, parce que contrairement aux ordonnances, le 49.3 offre l'opportunité aux députés de s'opposer à l'adoption du projet de loi. S'ils votent la motion de censure qui suit de droit le recours au 49.3, le budget est rejeté et le gouvernement renversé. Sébastien Lecornu va donc utiliser le 49.3 pour faire adopter le budget 2026 une première fois demain après-midi sur le volet recettes, une deuxième fois quelques jours plus tard sur le volet dépenses. Ensuite, le texte partira au Sénat et il reviendra à l'Assemblée. Il y aura alors la nécessité d'utiliser un troisième 49.3 sur l'ensemble du texte pour son adoption définitive. À chaque fois, le Premier ministre devra affronter une motion de censure en espérant qu'elle ne soit pas adoptée. A priori, ce ne sera pas le cas, car il y a un accord de non-censure avec les députés socialistes.
Stéphane Robert, merci. Mathilde Panot, la chef des députés LFI, confirme sur le réseau X le dépôt d'une motion de censure dans le cadre de l'article 49.3. Elle accuse le Premier ministre de, je cite, « passer en force son budget de malheur ». Mathilde Panot qui invoque la dignité du Parlement pour justifier cette motion. Parmi les concessions faites au PS pour décrocher la non-censure socialiste, il y a le retour dans le budget de la surtaxe sur les bénéfices des grandes sociétés. Le président du MEDEF, Patrick Martin, accuse le Premier ministre de vouloir accabler les entreprises pour flatter l'opinion. Annabelle Grelier, les patrons qui sont aujourd'hui exaspérés.
Patrick Martin, le patron du MEDEF, a tweeté tout le week-end. Colère et rage, rien n'y fera. Les grandes entreprises supporteront les efforts qu'exige le budget 2026 avec le retour de la surtaxe d'impôt sur les sociétés pour un montant d'environ 8 milliards d'euros. La FEP, l'Association française des entreprises privées, qui compte 117 membres, parmi lesquels LVMH, Accor ou encore Michelin, elle ne souhaite même plus commenter. Depuis juillet, elle multipliait les avertissements et autres rapports pour dissuader le gouvernement d'alourdir leurs contributions, mais là encore, Or, malgré quelques promesses, les grandes entreprises n'ont pas eu gain de cause et se disent exaspérées, laissant planer les menaces quant à de nouvelles implantations d'usines ou des investissements futurs. Même la CPME, qui représente les PME et ETI, pourtant épargnées, témoigne son inquiétude. Elles sont souvent les sous-traitants des grandes entreprises, ce qui présage une baisse probable de carnet de commandes. Pour justifier sa décision, Sébastien Lecornu, dans la lettre qu'il leur a adressée ce week-end, en appelle au patriotisme des grands patrons. Le fruit de cette taxe devrait être fléché vers l'économie de la défense et donc d'une partie de notre industrie. Un argument qui semble ce soir avoir peu d'écho dans les rangs du CAC 40.
Décryptage signé Annabelle Grelier. Alors que la France cherche un budget, son tissu industriel continue de s'effilocher. Exemple, l'aciériste Novasco, placé en liquidation judiciaire il y a deux mois, une procédure qui concerne 4 des 5 usines de l'entreprise avec 531 licenciements à la clé. L'État français ne veut pas en rester là, il porte plainte contre le fonds d'investissement britannique Greybull qui avait repris Novasco il y a un an. Le ministre délégué à l'industrie Sébastien Martin l'a annoncé aujourd'hui. Bonsoir Camille Magnard.
Bonsoir Stanislas.
L'État estime que les engagements financiers de Greybull pour sauver Novasco n'ont pas été respectés alors que l'État justement a mis sur la table les 85 millions d'euros d'aide publique qu'il avait promis.
C'est ça, et en face, Greybull n'a apporté qu'1,5 million d'euros en un an, alors qu'il en avait promis 90 au départ. Forcément, les termes du contrat n'ont pas été respectés et l'État se tourne vers la justice pour faire valoir son préjudice, détaillé par le ministre Sébastien Martin.
L'État a mis 85 millions d'euros sur la table, donc j'exige que celui-ci soit remboursé. Et puis il y a un préjudice au-delà de ça, on demande 10 millions d'euros supplémentaires pour dire que les salariés doivent être accompagnés, pour dire que les territoires concernés, et particulièrement celui d'Agondange, mais pas que, doivent être accompagnés, et que vous avez pris un engagement, Monsieur Greybull, vous devez tenir vos engagements.
Avec cette plainte, l'État veut aussi envoyer un message au fonds d'investissement Vautour. Les ex-salariés de Novasco et leurs représentants, eux aussi, espèrent que la procédure va faire jurisprudence pour éviter de nouveaux plans sociaux dans des entreprises aidées par l'État. D'ailleurs, ils vont eux aussi, en parallèle, attaquer collectivement Greybull en justice. Yann Amadoro est le secrétaire CGT du CSE.
Aujourd'hui, on a quand même 476 salariés qui se sont inscrits dans la procédure, sur 531 licenciés.
Les salariés État côte à côte contre l'investisseur, c'est une première, souligne-t-on, à Bercy, où l'on affirme que l'État a fait tout ce qu'il pouvait pour éviter le pire chez Novasco. Il aurait tout de même pu en faire plus, estime Yann Amadoro.
Nous, ce qu'on avait demandé initialement, ce n'est pas la nationalisation, mais c'était que l'État prenne des parts au capital, pour que l'État ait un droit de regard sur la stratégie. Sauf que dès qu'on commence à dire qu'il y a l'État dans l'actionnariat, forcément, les financiers type Greybull, ils viennent pas, tout simplement, parce qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent.
Voilà, cette plainte contre Greybull, c'est donc pour l'État une manière de montrer qu'il ne se laisse pas faire. Une première audience est prévue au tribunal des affaires économiques de Paris le 7 mai avec l'espoir d'obtenir la condamnation de Greybull dans un an au mieux.
Explication signée Camille Magnard. Il y a 10 ans, le 17 janvier 2016, Guillaume Molinet, un père de famille de 49 ans, trouvait la mort après avoir participé à un essai thérapeutique. Essai organisé par le laboratoire portugais Bial dans un centre privé à Rennes. Guillaume Molinet n'a pas résisté à la prise d'une molécule destinée à apaiser des douleurs neuropathiques. Il est mort au CHU de Rennes. Le parquet de Paris a confirmé aujourd'hui que le laboratoire et son directeur de recherche étaient mis en examen depuis la fin juillet 2023 pour homicide et blessures involontaires. Tara Schlegel, bonsoir.
Bonsoir.
Les proches de Guillaume Molinet ont pris la parole cet après-midi avec leur avocat.
Oui, la molécule testée n'aurait pas dû l'être de cette façon, affirme l'avocat, tout comme les 7 experts qui ont enquêté et rendu leur rapport il y a 2 ans et demi à la juge d'instruction. Le médicament était imaginé pour bloquer une enzyme dont l'absence aurait provoqué un effet agréable en stimulant le système endocannabinoïde et donc en réduisant les effets de la douleur, mais explique Maître Coubris.
Que nous apprend d'autre ce rapport? Jamais on aurait dû les exposer à des doses aussi importantes parce que ça ne sert strictement à rien. L'enzyme que l'on voulait bloquer, avec des doses 10 fois moins importantes, elle était déjà bloquée. Donc on ne comprend pas pourquoi on est allé chercher des doses aussi importantes.
En tout cas, cette enzymes et les essais cliniques ont provoqué des hémorragies très graves. Guillaume, lui, en est mort. Les 4 autres volontaires sains qui se sont soumis à cet essai ont eu des AVC. Le laboratoire Bial a tout fait pour dire que lui-même, Guillaume, était en bonne santé avant d'absorber cette molécule. Le laboratoire a prétendu qu'il avait un passé de fumeur de drogue et des problèmes cardiaques qu'il ignorait, ce qui, pour sa mère Jacqueline, est insupportable.
Pourquoi s'acharner à vouloir lui incomber sa propre mort ? Il a subi les examens comme tous les autres volontaires. Il a été déclaré sain. Point. Moi, je suis en colère. Je suis en colère parce que dans la médecine où nous ne sommes pas évidemment des pros, on cherche toujours à excuser, comment dire, le créateur du médicament. Donc, 10 ans, c'est beaucoup. On a été patient, mais c'est normal. Il faut encore attendre 10 ans. On attendra encore 10 ans, mais on veut la vérité.
Laurent, le frère de Guillaume Molinet, va encore plus loin. Pour lui, le centre qui a organisé l'essai à Rennes est aussi responsable.
Les participants étaient sans bouger pendant toute la durée du test. Puisqu'en fait, tout était surveillé. L'alimentation, ils devaient faire attention à ne pas manger trop de ceci ou trop de cela. Bon, avec un médecin de permanence, bah oui, bah, c'était encadré. Des symptômes qui étaient flagrants chez Guillaume dès le matin, qu'ils envoient Guillaume à 21h aux urgences, c'est improbable, complètement improbable. Qu'ils aient caché au CHU qu'il y avait un test qui était en train de se passer, c'est de l'aberration totale.
Là, les médecins du CHU ne savaient même pas ce que prenait votre frère.
On est en pleine science-fiction, là. Hein.
Pour l'instant, seul le laboratoire portugais a été mis en cause dans cette affaire, mais la famille estime que les autres responsables seront aussi bientôt poursuivis.
Tara Schlegel, spécialiste des questions de santé à la rédaction de France Culture. L'Espagne va observer 3 jours de deuil après l'une des pires catastrophes ferroviaires de son histoire. Au moins 39 morts hier soir en Andalousie dans la collision entre 2 trains à grande vitesse et le bilan risque de s'alourdir dans les prochaines heures. Virginie Pironon, les autautorités espagnoles, tout comme les 2 compagnies ferroviaires concernées, font part de leur désarroi en évoquant un accident extrêmement étrange.
Oui, ce sont les mots utilisés à la fois par le ministre espagnol des Transports, Oscar Puente, et par le président de la compagnie ferroviaire Irio, Carlos Bertomeu, dont le train à grande vitesse a déraillé hier soir. Personne, à l'heure qu'il est, ne s'explique cet accident. Pourquoi les 2 derniers wagons de ce train ont été projetés sur la voie parallèle, percutant de plein fouet un autre train qui arrivait en face. Le président de la compagnie privée Irio, dont l'actionnaire majoritaire est italien, l'a répété tout à l'heure devant les caméras. Le train est tout neuf, il n'a pas 3 ans. Il parle même d'une sorte de Ferrari de toute dernière technologie pour laquelle la maintenance a été respectée. La dernière révision du train date d'ailleurs de jeudi dernier. De plus, l'accident a eu lieu en pleine ligne droite, à une vitesse modérée selon la compagnie. Face à cette tragédie, le président d'Irio dit mettre toute l'entreprise à disposition des enquêteurs. Selon le ministère espagnol des Transports, il faudra au moins 1 mois à la commission d'enquête pour rendre ses conclusions.
Virginie Pironon de la rédaction internationale de Radio France. Fâché de ne pas avoir obtenu le prix Nobel de la paix, Donald Trump ne s'intéresse plus uniquement à la paix. Le président américain a employé cette incroyable formule dans une lettre adressée hier au premier ministre norvégien par l'intermédiaire de l'ambassadeur de Norvège à Washington. Lettre répondant aux positions norvégiennes et finlandaises sur le Groenland. Les premiers ministres Jonas Gahr Støre et Alexander Stubb ont sollicité ce week-end un entretien téléphonique à Donald Trump, et cela pour lui demander d'apaiser les tensions et de renoncer aux droits de douane infligés à ses alliés européens. Olivier Poujade, ce courrier du locataire de la Maison-Blanche est véritablement très surprenant.
Oui, il y a une certaine forme d'amertume dans cette lettre au Premier ministre norvégien. « Puisque votre pays ne m'a pas attribué le prix Nobel », écrit Donald Trump, « je ne me sens plus tenu de penser uniquement à la paix ». De l'amertume, un soupçon de menace même, mais également pas mal d'approximations. Pourquoi s'adresse-t-il aux dirigeants norvégiens alors que la Fondation Nobel est une organisation suédoise ? C'est vrai que le Nobel de la paix est décerné en Norvège, à Oslo, mais sous la direction donc d'une fondation privée qui n'a aucun lien avec les pouvoirs publics. Donald Trump mélange donc un peu tout. Le pauvre Jonas Gahr Støre Premier ministre norvégien n'a rien à voir avec l'attribution du Nobel de la paix. Il ne dicte pas non plus la politique danoise sur le Groenland, puisque Donald Trump s'interroge au départ dans cette lettre sur le droit de propriété de Copenhague au Groenland. Il y a quelques semaines, Susie Wiles, rappelez-vous, la directrice de cabinet Donald Trump, affirmait dans un entretien à Vanity Fair que le président américain avait un comportement parfois comparable à celui d'un alcoolique. Le contenu de cette lettre semble en être l'une des illustrations.
Olivier Poujade, correspondant de France Culture aux États-Unis à Atlanta. La France ne participera pas au Conseil de paix pour Gaza, la structure que Donald Trump veut mettre en place pour l'enclave palestinienne. Paris estime que ce Conseil pour la paix remet en cause le rôle des Nations Unies pour trouver une solution pacifique. La charte des Nations Unies est la clé de voûte d'un multilatéralisme efficace, fait valoir la diplomatie française. Donald Trump a fixé à $1 milliard le prix d'un siège permanent à son Conseil de paix. Retour en France avec une grève qui s'enlise au Louvre pour la troisième fois depuis le début du mouvement le 15 décembre. Le plus grand musée du monde est resté intégralement fermé aujourd'hui. Les syndicats reconnaissent des avancées comme le renouvellement de certains postes ou la diminution de la charge de travail, mais il reste de nombreux points qui cristallisent la colère des grévistes. Marion Ferrer, bonsoir.
Bonsoir.
Les syndicats contestent notamment la gouvernance de la présidente du Louvre, Laurence Descartes.
La gouvernance de Laurence Descartes, mise en place en 2021, remise en cause aussi à demi-mot hier sur France Inter par la ministre de la Culture, Rachida Dati.